Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达木家
正忙着切菜，बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée par Salomé Vio, Christophe Payet, Antoine Dulster, réalisée ce matin par Doria Zénine et mise en onde par Emmanuel Morse-Duncan. On poursuivra même clore, mettre un point final à notre série d'émissions dédiées cette semaine à la montagne, de l'Himalaya au Caucase, la montagne objet de convoitise. C'était le titre de notre série. On commençait lundi avec des frontières et des guerres. Mardi, nous parlions de sociologie, du tourisme des neiges. Hier, mercredi, nous parlions un petit peu de spiritualité, les cimes des dieux. Mais aujourd'hui, à Sotchi comme ailleurs, la ruée vers l'or blanc. Sotchi, les prochains Jeux, bien sûr, olympiques 2014 se tiendront là-bas, en Russie, entre les montagnes du Caucase du Nord et la mer Noire. Une cité balnéaire au pied de la montagne prépare donc depuis 2007 maintenant sa métamorphose pour accueillir l'événement.
C'est Vladimir Poutine qui a donné le coup d'envoi du relais en Russie, sur la place Rouge. Après Moscou, la flamme doit parcourir quelques 65 000 km à travers la Russie jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi. Ce sera le 7 février 2014.
Les milliards générés par ce marché gigantesque sont l'enjeu d'une guerre sans merci. Dernière victime en date, Aslan Ousoyan, dit grand-père Hassan. Un roi de la mafia russe. Le 15 janvier, il a été abattu par balle en pleine rue, à Moscou. Et il n'y a pas que pour la mafia que les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi représentent une alléchante manne financière. Entrepreneurs et fonctionnaires sont légion à vouloir tirer leur part du gâteau. C'est sans doute ce qui explique l'explosion des coûts.
Doku Umarov a publié sur son site internet une vidéo dans laquelle il appelle tous les musulmans de Russie à empêcher la tenue des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. Le chef rebelle qualifie les JO de danse satanique sur les os de ses ancêtres.
Sotchi, donc le grand rendez-vous international du sport d'hiver qui commencera le 7 février prochain. Le budget prévisionnel pour son organisation était de 12 milliards de dollars. Il sera très clairement dépassé, largement dépassé, probablement plus de 30 milliards. Les soupçons de corruption sont lourds, ce qui n'est pas une spécificité russe. Des projets de cette ampleur conduisent presque mécaniquement, quels que soient les pays, quels que soient les événements sportifs, à des phénomènes de corruption. Mais l'examen des dépenses pour ces aménagements est un excellent moyen quand même d'étudier les rapports entre le monde de l'économie et celui de la politique qui en Russie sont particulièrement imbriqués. Alors au-delà du coût des aménagements, Sotchi 2014 est un défi immense pour la Russie et pour son président Poutine, un défi sécuritaire d'abord. Le pays n'est pas épargné par les actes de terrorisme. Souvenons-nous des attentats dans le métro et à l'aéroport de Domodedovo, revendiqué par le maquis nord-caucasien conduit par Doko Umarov, alias Abu Ousmane, celui-là même qui l'été dernier appelait à empêcher par tous les moyens la tenue des Jeux. Poutine va vouloir donc montrer au monde que la région est parfaitement sous contrôle et que la tenue des JO, une vitrine pour son pays, y est possible. Mais Sotchi, c'est également un défi économique et social. Il s'agit pour Poutine de développer une région en prise à la misère. Sotchi 2014 doit être un levier pour désenclaver le Caucase et le sortir de la violence et la pauvreté. Mais le projet olympique suffira-t-il à développer le tourisme et à enclencher le moteur d'une économie locale morose? C'est en tout cas ce que veut prouver Poutine à sa propre opinion cette fois. Un laboratoire du point de vue économique et social, donc, économique et social certes, mais également un laboratoire peut-être du point de vue des droits de l'homme qui, à l'occasion des aménagements de ces Jeux, ont été assez largement bafoués. Expulsion, destruction de logements, tel a été le prix à payer pour les populations locales qui n'ont pas été ménagées. Nous parlerons également des enjeux environnementaux concernant Sotchi, mais pas seulement, puisque toutes les stations de ski, finalement, doivent relever ce défi environnemental. On le verra tout à l'heure, on en parlera avec Hugues François tout à l'heure, à la fin de notre émission, et puis on fera un petit détour aussi vers l'Argentine, où là aussi, les populations locales, les Mapuches en l'occurrence, font les frais du développement du tourisme des neiges dans les montagnes du Cerro Chapelco. On en parlera tout à l'heure avec Anna Guevara. Mais d'abord, pour commencer notre émission et pour nous accompagner dans cette matinée, à Sotchi comme ailleurs, la ruée vers l'or blanc, c'est notre sujet ce matin. Et c'est donc Aude Merlin que nous avons invité. Bonjour Aude Merlin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Bruxelles. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et puis j'indique auteur notamment, co-auteur de Ordre et désordre au Caucase. C'était aux éditions de l'Université de Bruxelles en 2010. Vous avez écrit un certain nombre d'articles, hein, par ailleurs, sur Sochi 2014. Évidemment, je le disais, un rendez-vous pour les sportifs des montagnes. Ce sera un rendez-vous aussi crucial pour Poutine. Parce qu'en deux semaines, il va devoir faire la démonstration à l'ensemble du monde, finalement, qu'il a les choses en main au niveau politique, économique, social. C'est un moment durant lequel il va vouloir faire la démonstration qu'il est un bon responsable politique, Aude Merlin.
Alors oui, j'ajoute juste que c'était en la direction de l'ouvrage Ordre et désordre au Caucase, c'était avec Sylvia Serrano. En ce qui concerne la question que vous posez, alors que va montrer M. Poutine ou que va-t-il vouloir montrer? C'est sûr que si on réinscrit le choix de Sochi et l'organisation des Jeux dans le temps long, on voit que ça fait effectivement partie d'un projet en termes d'image et pas seulement, mais qui date déjà d'un certain nombre d'années, puisque le choix de Sochi, l'élection de la candidature Sochi remonte à 2007 et il y avait déjà eu une candidature précédente de Sochi pour avoir les Jeux. Donc on voit bien que là, il y a un projet sur le temps long. Et en même temps, sur une séquence, disons, politique plus ramassée, on voit aussi que ça correspond avec le troisième mandat de Vladimir Poutine comme président, c'est-à-dire son retour à la présidence russe en 2012, et que ça tombe dans un moment politique où un certain nombre d'enjeux de mobilisation politique auprès de la société russe ont déjà été utilisés ou épuisés, pourrait-on dire, durant les deux premiers mandats de la présidence Poutine, c'est-à-dire entre 2000 et 2008. Donc là, il y a effectivement une espèce de surenchère dans l'investissement en termes de communication par rapport à cet événement qui arrive maintenant à grands pas, qui commence le 7 février.
J'aimais bien la formule de Marie Jégot, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans le Monde, qui disait « Sochi est à Poutine ce que Saint-Pétersbourg fut à Pierre le Grand ».
Alors évidemment, comme toujours, peut-être c'est que comparaison
voilà.
N'est pas raison. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a... Alors là, ça pourrait dépasser très largement les frontières russes, hein, d'essayer comme ça de détecter ou d'identifier des espèces comme ça de projets très identitaires et très personnels de dirigeants politiques. Et dans les pays démocratiques, on peut le voir aussi. Donc là, je crois que ça dépasse largement les frontières russes. Mais c'est sûr que ça coïncide, je pense, avec une absence de réel projet politique positif pour la Russie et que donc opportunément ça vient aussi donner d'une certaine façon des outils en termes de communication pour les autorités russes, que ce soit en interne ou que ce soit à l'échelle internationale.
Alors, on avait prévu de faire de longue date cette émission sur Sochi, puis l'actualité nous rattrape, puisque vous avez vu ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'appels au boycott, notamment pour protester contre cette loi sur la propagande homosexuelle, mais plus généralement, en gros, pour voilà, l'autoritarisme dont fait preuve le pouvoir. On a eu le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui déclarait dimanche qu'il n'était pas prévu que les plus grandes autorités françaises s'y rendent, clairement mentionnant d'ailleurs assez explicitement le président Hollande. Le président de la République allemande, Joachim Gauck, n'assistera pas non plus, même s'il a indiqué quand même dans son communiqué qu'il n'était pas question de boycott en raison des violations des droits de l'homme en Russie, mais rien que le fait de le préciser, peut-être, c'est quand même important. Quel regard vous portez sur ces annonces? C'est quelque chose qui doit terriblement froisser le pouvoir russe et peut-être particulièrement Poutine.
Ah oui, c'est sûr, parce qu'on voit bien que lorsque cette loi sur la question des minorités sexuelles non traditionnelles, puisque c'est comme ça qu'elle est labellisée en russe, hein, sur la question en fait de la propagande ou diffusion de propagande sur les questions de minorités sexuelles non traditionnelles à l'égard des mineurs. Voilà ce qui est écrit texto dans la loi russe. Et donc, c'est devenu, dans une médiatisation de la question, ça a été finalement labellisé sous forme de question de propagande homosexuelle. Bon, voilà. Mais il y avait vraiment une formule très précise. Et on voit bien qu'au moment où cette loi a été adoptée, donc avant l'été, la réaction internationale de la société civile, également de personnalités politiques, a été très vigoureuse et que les autorités russes, là, ont tout de suite, dans un état de fébrilité et de prise de conscience de l'impact que cette question-là pouvait avoir en termes d'opinion publique internationale, ont tout de suite essayé de rassurer en disant « ne vous inquiétez pas, les droits seront absolument observés à Sochi, etc. » Et en réalité, on voit que cette question-là, a malgré tout, alors combiné avec d'autres, hein, je pense que comme toujours, y compris dans la question des prises de décision de ne pas se rendre, même si le mot boycott d'ailleurs n'est pas forcément utilisé par les autorités politiques qui disent
voire
ne
carrément
pas se rendre.
Jamais en fait, on parle
voilà,
jamais de boycott.
Exactement, absolument.
En
absolument.
Fait, c'est les médias russes qui parlent de boycott beaucoup. Et en retour, du coup, on a le terme qui revient, mais en fait, ici, on ne parle jamais de boycott.
Enfin, alors la société civile ou certains mouvements de l'opinion publique ou certaines ONG, certaines associations ont pu appeler au boycott à un certain moment. Les autorités politiques internationales ont dans un premier temps dit « nous ne boycotterons pas ». On peut se souvenir des paroles de Barack Obama en la matière, par exemple. Et puis, alors maintenant, voilà, c'est la question de ne pas aller, qui sort en Allemagne, puis en France. Et c'est sûr que très probablement, au sein des autorités russes, c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'inquiétude, parce que précisément, il y avait là un enjeu en termes d'image qui était extrêmement important et des efforts effectués par le pouvoir russe pour précisément rassurer les interlocuteurs au niveau international. Et dans le même temps, ça coïncide là avec une accumulation, le cas de l'Ukraine n'étant pas, la question la plus insignifiante de ces dernières semaines, et ça a probablement joué aussi un rôle dans les prises de parole allemandes et françaises, c'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce comme ça d'accumulation et de combinatoire de la posture russe sur la scène internationale qui finit par irriter très fortement. Donc finalement, Sotchi devient comme ça une espèce de variable, un peu d'ajustement, alors qu'on ne sait pas exactement si la question de ne pas se rendre à Sotchi, voilà, qu'est-ce qu'elle convoque finalement réellement comme enjeu au-delà des déclarations.
Alors revenons au début, Aude Merlin. Le début, c'est le choix de Sotchi comme lieu pour organiser ces Jeux. Ce qu'il faut comprendre, et vous l'expliquez dans un de vos papiers, notamment qui était paru en 2012, je crois, dans Question internationale, vous disiez, voilà, ce site de Krasnaya Poliana, ce site de Sotchi, c'est un lieu particulièrement symbolique, puisque c'est là, vous le rappelez, qu'en 1964, l'Empire russe remporte sa bataille finale sur les montagnards. C'est un lieu, finalement, qui provoque les populations locales. En tout cas, c'est vu comme tel, de leur côté.
Absolument. Alors là, peut-être une question qui pourrait être adressée à Monsieur Poutine ou à ses conseillers lorsque la candidature Sotchi a émergé, était est-ce que Monsieur Poutine lui-même savait que Krasna Poliana, donc voilà la clairière rouge, enfin, était un lieu historiquement très chargé. Alors là aussi, c'est pas la première fois qu'un méga événement international se passe sur l'endroit de crimes passés ou de profanation, et on sait que précisément les Jeux Olympiques souvent convoquent cette question-là. On a pu le voir avec les Jeux de Vancouver. Enfin, mais là, c'est sûr que voilà les Caucasiens de l'Ouest que l'on rassemble souvent dans une appellation générique, enfin des circassiens, qui inclut les Tcherkesses, les Adigués, les Kabardes en particulier, mais aussi les Chapsougs, les Oubouks, dont il ne reste pas un seul locuteur, qui est un peuple qui a été littéralement exterminé, etc., était donc le peuple autochtone de ce littoral de la mer Noire, donc à l'ouest, dans la partie ouest du Caucase. Et l'avancée impériale russe au Caucase a effectivement, au XIXe siècle, après des combats très, très violents dans la partie orientale, a connu une espèce de scansion finale. Enfin, on date la fin de la Grande Guerre du Caucase précisément en 1864. Et le 21 mai 1864, il y a eu effectivement des massacres très, très importants, très violents, très sanglants, contre les habitants circassiens, donc qui se battaient, qui résistaient à l'avancée russe, qui a été aussi combiné à un exode forcé, c'est-à-dire que les rescapés ou des centaines de milliers de Tcherkesses ont été conduits à l'exil, à l'exode forcé vers l'Empire ottoman, et des milliers et des milliers ont été exterminés sur place. Donc c'est sûr que historiquement...
Qu'on évacuait d'ailleurs par le port de Sotchi, j'ai lu. Est-ce que justement le choix de ce lieu a suscité une forte mobilisation sur place, ou est-ce que finalement la mobilisation a été relativement faible? Parce que évidemment, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu, dans le cadre des aménagements nécessaires pour organiser ces Jeux, un certain nombre d'expulsions de familles qui ont dû quitter leurs habitations pour laisser place aux pelleteuses, qui a exacerbé le mécontentement. Est-ce que ça s'est quand même cristallisé dans une forme de mobilisation, ou pas tant que ça?
Alors c'est intéressant cette question des mobilisations parce que d'abord elle est assez composite en soi dès lors que cet événement concentre en lui-même une espèce de vraiment représente comme vous l'avez dit un laboratoire de ces mobilisations qu'on connaît en Russie qui existe déjà ailleurs en Russie mais là effectivement il y a une espèce comme ça de convergence de plusieurs enjeux. La question mémorielle elle a été beaucoup plus en réalité mobilisée par les diasporas. Tcherkesse, circassienne, que ce soit en Turquie, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, que en Russie même, précisément parce que le contexte politique se prête moins facilement à des mobilisations et parce qu'également les retombées et les répressions peuvent toucher directement des activistes tcherkesses, et ce qui a été le cas d'ailleurs. Dans un livre à paraître prochainement écrit par Régis Janté, il y a des témoignages de militants tcherkesses qui ont été très clairement interpellés, harcelés ou qui ont subi des menaces tout à fait explicites et des violences physiques dès lors qu'ils avaient soulevé la question de la condamnation, de la dénonciation morale du fait d'organiser des jeux sur des ossements et des cadavres de personnes exterminées au XIXe siècle. Et alors on pouvait imaginer quand Sochi a été choisi que la question de Tcherkesse serait centrale dans les mobilisations. Et donc du coup, il y a une espèce comme ça, je dirais, de déséquilibre au fond, ou d'hémiplégie entre une diaspora qui se mobilise beaucoup et qui appelle très clairement au boycott, et en revanche, des ONG ou des groupes ou des mouvements nationaux circassiens intérieurs en Russie, donc au Caucase du Nord, qui eux ont beaucoup revu à la baisse leurs revendications, à la fois probablement par peur, et aussi en essayant de se positionner davantage dans des tractations avec le pouvoir, que ce soit avec le pouvoir local ou le pouvoir fédéral. Alors après, on voit vraiment une gradation des revendications qui peut aller. Certains, donc surtout en diaspora, ont demandé que soit reconnu comme génocide ce qui s'est passé au 19e siècle. D'autres ont posé les revendications davantage sur une espèce de côté couleur locale et un peu folklorisant, demandant à ce qu'il y ait un rappel, disons, de la spécificité des peuples circassiens lors de la cérémonie d'ouverture. D'autres ont espéré des retombées économiques importantes. Donc finalement, cette mobilisation-là n'a pas été aussi importante, par exemple, que la mobilisation précisément des groupes LGBT, donc des mobilisations de groupes gays, lesbiens, qui ont une résonance internationale qui touche très très fort et plus sans doute que la question circassienne.
Et puis on a aussi, Aude Merlin, pardon de vous couper, mais on a aussi, j'allais dire, la version ultra-radicale de la chose, c'est-à-dire ce que je disais dans mon introduction, ce chef des rebelles islamistes du Nord-Caucase, Doko Umarov, qu'on appelle Abu Ousmane, qui se fait appeler Abu Ousmane, qui appelle carrément, lui, à empêcher par tous les moyens la tenue de ces Jeux Olympiques. Est-ce que, précisément, ces rebelles islamistes sont une menace? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser qu'ils seront peut-être en mesure de mener des opérations sur place?
Alors bon, je ne suis pas devin et c'est difficile de savoir à l'avance ce qui va se passer.
Non, mais ce qu'on peut regarder, c'est peut-être ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, voir s'il y a eu des violentes récentes qui peuvent le faire penser, quoi.
Bah, alors, de toute façon, là, il y a plusieurs choses à rappeler. Enfin, il faut rappeler que le Caucase du Nord vit une situation de guerre des rues, une situation de violence continue, même si elles sont... si on compare à d'autres noyaux ou foyers de violence, peut-être d'une certaine façon de basse intensité, mais malgré tout, si vous regardez l'année 2012 ou l'année 2011, en 2012, on compte 1225 victimes dans le Caucase du Nord, dont environ 700 morts et le reste blessés. En 2011, 1378 victimes, avec là aussi une répartition entre morts et blessés, et à l'intérieur de ces catégories, des victimes qui se distribuent aussi entre différents groupes sociaux, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a un cycle de violence, une espèce de cercle vicieux de l'exercice de la violence qui n'est pas enrayé ni par les autorités fédérales ni par les autorités locales, précisément parce que à la fois l'impunité mais aussi la persistance d'un maquis clandestin qui continue de recruter face donc à des représentants des forces de l'ordre, face à des commissariats de police, face à des structures de force, comme on dit, qui exerce et perpétue des violences dans les commissariats, recours à la torture, tout en revendiquant ou tout en prétendant lutter contre le terrorisme, tout ça ne fait qu'alimenter cette spirale de la violence.
Et comment est-ce qu'on a prévu justement de l'endiguer, cette violence ? Quels sont les moyens sécuritaires qui ont été mis en place par les autorités pour contenir la menace pendant les Jeux ?
Alors,
parce que c'est un poste énorme en termes d'argent, je crois.
Tout à fait, de l'argent et des hommes, c'est sûr. Il y a à la fois, on estime le budget dévolu par le Kremlin à la seule sécurité pour les Jeux Olympiques de Sochi à 1,5 milliard de dollars, ce qui équivaut environ au coût total des Jeux de Vancouver. Donc pour la seule sécurité à Sochi, on a un budget qui équivaut au budget qui avait été donc débloqué pour organiser les Jeux de Vancouver. Alors après, il y a évidemment un certain nombre de choses qu'on ne peut pas comparer, parce qu'à Vancouver, il y avait déjà des installations, etc. Mais c'est quand même très important. Et il y a 40 000 hommes qui vont être dépêchés en plus, donc forces de police, pour garantir la sécurité. Il y a aussi des
Sans compter les services secrets, on a lu ça récemment dans la presse, ce fameux système d'écoute, des conversations téléphoniques, des échanges sur Internet, un système qui s'appelle SORM, auquel d'ailleurs les services britanniques et les services américains, qui ne sont pas mauvais en la matière, devraient collaborer. On a aussi cette dimension-là.
Oui, tout à fait. Ce qu'a révélé en particulier Andrei Soldatov, qui travaille de façon très précise et documentée sur cette question-là, il y a effectivement tout un dispositif d'écoute et de surveillance de tous les individus qui seront présents. Enfin, en tout cas, voilà, il y a toute une ramification et un réseau de surveillance qui est prévu. Alors après, ce qu'il y a, et ce qu'on ne peut jamais exclure, et on a pu le voir dans le passé au Caucase du Nord, on l'a vu que ce soit en 2004, au moment de la prise d'otage de l'école à Beslan, en Ossétie du Nord. On l'avait vu en 1995, au moment de Budionovsk. On l'a vu aussi en 2002, jusqu'à Moscou, avec la prise d'otage au Nord-Ouest. C'est-à-dire que parfois, la corruption étant ce qu'elle est, il n'est pas exclu que certains fauteurs de troubles puissent acheter le passage d'un checkpoint ou puissent acheter la pénétration dans tel ou tel lieu. Enfin, voilà, c'est sûr que l'histoire récente, c'est-à-dire des 10, 15, 20 dernières années de ce qui se passe au Caucase du Nord, montre qu'il n'y a jamais de risque zéro ou de sécurité à 100% dès lors que le maillage peut être un petit peu perméable. Et ça, on ne sait pas. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a un acte d'intimidation rhétorique qui a été lancé le 3 juillet par Doku Umarov.
Vous parlez de corruption, juste un point. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais vous disiez en effet, on parle de 36 milliards en gros pour le coût global. Pour avoir une petite idée, Pékin 2008, qui était déjà considérable, c'était 30 milliards, donc c'est déjà plus. Et Vancouver, donc les précédents Jeux d'hiver, c'était 4 fois moins, c'était 9 milliards, je crois. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'ancien vice-premier ministre de Yeltsin accuse le président Poutine et ses proches d'avoir détourné près de 20 milliards d'euros. C'est dire l'ampleur. Alors, je sais, évidemment, c'est très difficile à mesurer, mais très clairement, on voit qu'il y a eu un effet de corruption très fort qui a fait flamber la facture. Aude Merlin, peut-être un point sur la question, je le disais dans mon introduction, du désenclavement de la région. Parce que Sochi 2014, ça rentre dans un projet peut-être plus vaste de développement de la région. Qui est, d'ailleurs, il y a un plan, je crois, qui s'appelle le plan Caucase 2025. L'aspect touristique, c'est un des volets finalement de la chose. Le défi ici, c'est clairement d'essayer, en tout cas, de développer cette région en proie à la violence, en proie aussi à une grande misère sociale. Est-ce que vous pensez que Sochi est de nature à enclencher cette dynamique économique?
Alors,
vous n'êtes pas économiste, je sais bien, mais quand même.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le coût global. Voilà, oui. 36 milliards d'euros. Effectivement, les dernières estimations, c'est 39,7 milliards d'euros, ce qui est 51 milliards de dollars environ. Et quand vous compariez à Pékin, il faut aussi rappeler que les Jeux d'été, c'est en général, en termes d'accueil et en termes de nombre d'athlètes,
plus lourd,
etc. C'est beaucoup plus lourd,
bien sûr.
Donc là, il y a en plus une disproportion qui est
C'est pour ça que je prenais Vancouver en comparaison. Et en gros, c'était 4 fois moins Vancouver. Mais vous avez raison, il y avait déjà des aménagements à Vancouver.
Et alors, en ce qui concerne les accusations portées en termes de corruption, je pense que vous faites allusion au rapport de Nemtsov et Martyniuk, qui effectivement décèlent dans leurs calculs le fait que la moitié de l'argent aurait été détourné par des personnes à très haut niveau, dont les frères Rothenberg, dont Yakounine, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont décroché des marchés et qui en réalité ont réussi à faire tourner plusieurs fois un budget pour s'accaparer une partie substantielle de l'argent dévolu. Alors,
allons-y. En gros, qui tire bénéfice de tout ça? Parce que, alors, si j'ai bien compris, les travaux sont conduits par un conglomérat public qui s'appelle Holmstroy. Je ne sais pas trop qui est derrière, mais qui tire profit de l'aménagement de Sotchi, selon vous?
Donc, si on parle de la corruption et de l'argent détourné, très clairement, alors là, il s'agit de proches des autorités russes. Hein. Je parlais tout à l'heure des frères Rothenberg, Arkady et Boris Rothenberg. Également Yakounine, donc de l'administration des chemins de fer. Et puis après, donc voilà, il y a des montages financiers, des montages en termes donc d'appels d'offres qui ont réussi à bénéficier effectivement du détournement de cet argent. Alors après, il y aura aussi des retombées positives, hein, bien sûr. Et ça, c'est évident au sens où il y a une telle modernisation des infrastructures et de telles constructions que alors, les gens localement, les commerçants espèrent qu'il y ait des retombées à tous les niveaux, des entrepreneurs. Voilà, donc je pense que là, il y a effectivement toute une gradation en termes d'analyse des retombées à faire. Sur la question que vous posiez concernant le complexe touristique et l'étendue plus largement dans la région, alors là, ce qu'on constate à ce jour, c'est que finalement, la réponse est plutôt non. Alors, dans un autre ordre d'idées, je sais que vous avez consacré une partie de votre émission sur la montagne à la question de la frontière, mais j'étais en Abkhazie il y a 3 semaines, et je voulais voir, alors l'Abkhazie, vous savez, donc, de l'autre côté de la frontière russe, et en même temps a été reconnue indépendante par la Russie, mais se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Sotchi, et il n'y a pas de retombées économiques, par exemple, des Jeux Olympiques de Sotchi sur le développement économique de l'Abkhazie. Il n'y a aucune retombée, ce qui est très surprenant, les gens sont très surpris, désappointés, parce qu'il y avait un espoir que cela pourrait, par effet d'entraînement, enclencher une espèce de logique vertueuse comme ça, du développement économique.
Alors, mais sur place, dans la région véritablement de Sotchi, ça a changé les choses?
Alors, dans la région immédiate, dans Sotchi même, oui. Ensuite, si on parle du Caucase du Nord de façon plus large, en réalité, il y a beaucoup plus, il y a eu d'une certaine façon au niveau de Moscou, la proclamation de ce projet Caucase 2025 et de construction de stations touristiques, dont certaines ont été littéralement arrêtées, par exemple celle de l'Elbrouz, et ne se feront probablement pas. D'autres se feront. Il y en a même une en Tchétchénie, Vidouchi, qui n'est pas dans le programme directement piloté par le Kremlin, mais les autorités tchétchènes ont profité pour en faire une. Donc il y a une espèce comme ça d'effet à la fois concurrentiel et d'émulation avec l'élection de Sotchi pour les Jeux, qui a obligé d'une certaine façon Moscou à dire oui, mais on ne va pas laisser tomber le reste de la région, le reste du Nord-Caucase, et on va engager des investissements.
Et en réalité, on va engager qui engage? Des investisseurs privés, russes, étrangers?
Vous savez qu'il y a eu de l'argent qui devait être envoyé par la Caisse de dépôt et consignation.
Oui, j'ai lu ça, oui.
De France.
Bah, c'est pas grand-chose, hein.
Non, c'est pas grand-chose. Sinon, c'est essentiellement de l'argent public russe, et quelques oligarques. Mais là aussi, la question se pose, est-ce que c'est de l'argent privé ou public, dès lors que, vous savez, il y a une consanguinité très importante dans le fonctionnement économique russe à très haut niveau, et que donc on parle beaucoup plus maintenant d'oligarque d'État. Donc c'est sûr que c'est essentiellement de l'argent public. Le directeur de ce qui s'appelait le complexe des stations touristiques du Nord-Caucase, Ahmed Bilalov, a été démis en février 2013, c'est-à-dire un an avant les Jeux, à cause justement de corruption dans tout le circuit et le réseau de financement des stations touristiques du Nord-Caucase. Donc, moi, je vois ça beaucoup plus comme une espèce d'investissement parallèle, à la fois pour, comme vous l'avez dit, dire aux populations nord-caucasiennes, dont on sait qu'elles vivent dans cette situation d'instabilité très importante, que j'ai essayé tout à l'heure de résumer par des chiffres et l'analyse de cette spirale de la violence, donc l'annonce d'un projet économique. Et en réalité, les niveau de corruption étant tel, on n'a pas réellement, en termes de création d'emplois sur place, de résultats. On a un divorce très important entre les sociétés locales et leurs autorités, et ce cycle de la violence.
Mais quoi, ça veut dire qu'on a pris les choses dans le mauvais sens? Ça veut dire qu'il ne fallait pas commencer par développer le tourisme avant de pacifier la région? On a pris les choses dans le mauvais sens, c'est ça qu'il faut comprendre?
C'est très difficile. C'est une question extrêmement difficile. C'est-à-dire que depuis, il y a eu deux guerres de Tchétchénie d'une violence inouïe. On peut analyser une part des violences qui continuent à se perpétrer comme une forme de conséquence de ces deux guerres de Tchétchénie, au sens où elles se sont déroulées dans une telle impunité que ces logiques de violence se sont donc auto-reproduites maintenant et échappent complètement à tout contrôle. Alors après, est-ce que l'investissement d'argent peut avoir raison de ces cycles de violence? Je ne crois pas, parce qu'effectivement, la question politique n'a jamais été résolue. Il y a eu un refus de négociation pendant le deuxième conflit de Tchétchénie, et puis donc petit à petit, une transformation des enjeux de mobilisation rhétorique du maquis, qui, d'un maquis indépendantiste tchétchène, plutôt laïque au début en tout cas, est devenue très clairement une espèce de rhétorique transnationale et djihadiste. Et du coup, effectivement, je crois que le pouvoir à Moscou est très désemparé par rapport à cette situation, les autorités locales aussi, et il y a une espèce de contrat ou de pacte implicite entre les autorités fédérales et les autorités locales qui est de la part de Moscou de dire aux chefs des républiques locales « Nous vous envoyons beaucoup d'argent ». Il faut savoir que les budgets des républiques sont ce qu'on appelle des budgets dotés, c'est-à-dire qu'à plus de 70%, parfois 90% pour certains budgets des républiques fédérées du Caucase du Nord, ça va du Daghestan, la Tchétchénie, l'Ingouchie, l'Ossétie du Nord, la Kabardino-Balkarie, la Karachaïevo-Tcherkessie et les Adygués, si on les cite toutes les sept, leurs budgets sont tous à plus de 50% subventionnés par Moscou. Et donc, dans ce contrat tacite qu'il y a entre Moscou et les élites locales, c'est « enrichissez-vous ». Avec une partie donc de l'argent que nous envoyons depuis Moscou, mais en échange, vous devez produire une loyauté vis-à-vis du gouvernement fédéral et vis-à-vis de l'État russe. Donc, est-ce qu'on a procédé dans le mauvais sens ? Enfin, est-ce que Moscou a pris les choses à l'envers ? Il y a, là, on est vraiment dans un effet, mécanique, je pense, de la combinaison entre le non-traitement d'un conflit à sa racine et une espèce de laisser-faire par rapport à des logiques de corruption concomitantes à une islamisation du maquis, donc une polarisation de plus en plus importante.
Aude Merlin, vous restez avec nous à Sotchi comme ailleurs, la ruée vers l'or blanc, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Vous écoutez France Culture, il est 11h, passé de 32 minutes. On va aller du côté des Mapuches, ces Indiens qui eux aussi font les frais, vous allez voir, du développement des territoires.
Entonces la ciudad crece e invade la tierra mapuche.
Donc la ville s'agrandit et envahit les terres mapuches.
Es decir que la gente tiene que vender obligatoriamente para que hagan ciudades.
Ils sont obligés de vendre leur terrain pour que la ville grandisse.
Esa es una casa típica.
Voilà, ça c'est des maisons typiques en bois. Une petite maison assez bien modeste.
Et à côté, bah, les nouvelles constructions, donc qui sont comme des.
Préfabriquées en tôle ou. Ouais, c'est très 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 modeste.
Par exemple, aquella casa, est muy possible que solo este pedacito sea de él.
Là, par exemple, la maison qui est là ne possède certainement que ce petit lopin de terre devant.
A diferencia de los invasores, de los latifundistas, que tienen cientos de hectáreas.
Et contrairement aux latifundistes qui, eux, en général, possèdent des centaines d'hectares.
Mais dis donc, il n'y a pas d'électricité dans ces maisons.
Si, fueron puestas en el último periodo de Pinochet.
Oui, Pinochet a électrifié dans la dernière période, il a électrifié le secteur. Il y a les poteaux là, on passe sous les
zones. Ah oui, oui.
El propósito principal era como meter la televisión.
Mais son idée était de faire rentrer la télévision.
Para perder la cultura.
Para perdre la culture, pour acculturer les Mapuches.
Faire entrer la télévision pour perdre la culture. Extrait d'un reportage d'Antoine Chao dans l'émission Là-bas si j'y suis, alors que le gouvernement chilien fêtait à l'époque, c'était en 2010, les 200 ans de l'indépendance du Chili, les Indiens Mapuches continuaient de se battre pour leurs droits, leur identité, leur autonomie. La vie des Mapuches chiliens change sous l'effet du développement, sous l'effet de l'accroissement des villes. Et c'est un peu pareil du côté de l'Argentine, et notamment lorsque les Indiens sont situés sur des sites où le tourisme des neiges prend son essor. On va en parler tout de suite avec Anna Guevara, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'EHESS. Votre sujet de thèse, je lis Le peuple mapuche et sa mémoire. Alors, le Cerro Chapelco, une montagne qui fait partie du Hualmapu, qui est le nom donné à la nation mapuche, abrite une station de ski, l'une des plus grandes du pays, l'une des plus grandes d'Argentine. Et depuis les années 90, les communautés mapuche sont en conflit avec les exploitants de la station sport d'hiver et le gouvernement provincial qui accorde, bien sûr, la concession. Qu'est-ce qui pose problème d'abord, Anna Guevara ? Posons un peu les choses. Pourquoi les Mapuches sont opposés à cette station ? En quoi est-ce que ça leur porte préjudice, Anna Guevara ?
Il me semble qu'il a qu'on dès qu'on voit en fait une portion d'espace où on met en valeur des portions d'espace telles qu'il a, on pourrait s'il y a la montagne ou en tout cas les cerros Chapelco, il s'est produit, il y a des créations, des frictions entre la société et diverses, c'est-à-dire des sortes de projections qui ont fait des non-valeurs et des non-ontologies particulières, c'est-à-dire des formes de voir la vie et de concevoir les mondes. Dans les cas particuliers des Mapuche, pour les Mapuche, en fait, c'est Cerro Chapelco ou la montagne Chapelco, c'est-à-dire la montagne Chapelco, si on fait une traduction simple, c'est l'eau des chapelles, c'est une plante des lieux humides, et est un être vivant, fait partie intégrante de la nature et est habitée en fait par des maîtres, des esprits qu'on appelle Nienko, c'est des Nien. Et pour eux, c'est aussi c'est un lien entre la terre et l'au-delà.
C'est-à-dire donc il y a un caractère sacré au fond, on profane l'espace. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a aussi la question de la surexploitation des ressources en eau, la question des espaces de pâturage aussi.
Oui, justement, il y a plusieurs niveaux d'analyse, mais si on se concentre justement sur ces conflits, sur ces frictions, ces tensions, il y aurait un problème des frictions entre existence, équilibre de l'être humain et non humain pour les Mapuche. C'est-à-dire que là, quand les stations de ski a commencé à s'installer, à l'époque, c'était pas un souci, car les ressources d'eau, principalement, étaient assez abondantes pour tout le monde. Mais ces dernières années, suite à une surexploitation des cours d'eau et on voit un versement des seaux usés sur des terres et Mapuche et ça commence à poser des problèmes justement pour la fertilité du sol nécessaire à la vie et justement aussi par des retombées par rapport à ces croyances et ces pratiques culturelles des Mapuche, sachant que les Mapuche qui habitent les alentours du Cerro Chapelco, ils n'ont jamais eu en fait des pratiques de stockage d'eau, et c'est-à-dire qu'en été, quand les stations de ski, c'est pas l'hiver, mais ils l'utilisaient quand même pendant l'été. Il y a des coupures courantes d'eau et les Cerro Chapelco, et comme il est tout près de la montagne et des sources en hauteur, en amont, il profite de l'eau pure et l'eau qui est versée au Mapuche, c'est de moindre qualité.
Mmh. Anna Guevara, on pourrait se dire après tout, voilà, de vrais problèmes, des problèmes concrets, réels, mais après tout, regardons les choses dans l'autre sens. C'est quand même pas mal de développer les territoires. Est-ce que l'économie ne profite pas aussi un peu à ces Mapuches? Je veux dire par là, est-ce qu'il n'y a pas certains membres de la communauté qui tirent un profit de cette manne touristique?
Mais vous savez, comme toujours, en fait, dès qu'il s'agit d'un projet de développement, il y a toujours des enjeux de tout ordre. Et justement, je ne suis pas non plus, mon regard, essayer de contempler en fait l'ensemble de la situation. Mais il est vrai que pour certains Mapuches, ça les permet une source de revenus. Mais le problème des fonds, c'est que justement par rapport à ce développement de ces stations de ski, ce qui demande les Mapuches en général, c'est avoir une place dans une vraie gestion des développements durables et pas seulement être des spectateurs qui voient arriver des entreprises qui développent des projets. Alors, il se trouve que la majorité des Mapuches sont des employés avec très peu de formation et justement, c'est des situations sous-alternes, c'est-à-dire qu'ils ne s'accèdent pas au poste de pouvoir au sein de ces centres de ski, malgré quelques initiatives, mais sont toujours mises à l'écart. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a cette revendication ou cette revendication sur des terres, sur un territoire, sur toute une histoire, une réclamation historique du territoire. Parce que tout d'un coup, ces terres qui valaient rien sont devenues, c'était perçu comme en ayant une autre valeur paysagère et donc immobilière. Et justement, les Mapuches réclament un peu de ces bénéfices. Justement, les Lanco, les chefs des communautés, ils disent les stations de ski est sur place, mais que seulement dans un but économique. Il n'y a pas d'autres buts, il n'y a pas des buts écologiques, environnementaux.
Mais qu'est-ce qu'ils voudraient concrètement? Ils voudraient qu'on redélimite le territoire qui est le leur. Il faudrait rendre plus visible la place qui est seulement la leur et qui ne doit pas être profané par le tourisme des neiges. C'est ça
qu'ils
demandent.
Alors, vous savez, là, c'est ce qui se passe aussi dans les cas particuliers des Cerro Chapelco et qui est à l'intérieur aussi, il côtoie et les parcs nationaux, la Nine, un des plus importants. Et aussi, il y a plusieurs découpes des territoires qui appartiennent à diverses institutions, propriétaires, associations, etc. Les Mapuche, je pense que ce qu'ils demandent, en fait, c'est de pouvoir surtout parce que c'est des Mapuche non plus qui habitent pas dans des petites réductions ou qu'on pourrait l'avoir dans l'imaginaire, qui sont écartés en fait du monde actuel, du monde occidental. Mais ils veulent avoir une place un peu plus importante dans ces projets. Alors, et là, les parcs nationaux Lanine qui est à côté a essayé de développer quelques initiatives auxquelles les Mapuche peuvent devenir des guides touristiques et s'est formé au fur et à mesure. Les Cerro Chapelco, ce qui a fait aussi, c'est une scission des deux communautés, car il y a deux communautés qui partagent en fait les environs de ces stations de ski. Alors, la station de ski a négocié avec une des communautés et pas avec l'autre. Et justement, cela produit aussi des frictions internes entre les deux communautés. Mais ce qui demande les communautés aussi, c'est justement s'être écoutées. C'est de pouvoir être dans les tables de négociation et pouvoir revendiquer aussi leur droit à une ontologie, c'est-à-dire une vision du monde particulière qu'on devrait mettre en place lors de chaque projet de développement et surtout associé à une montagne qui pour eux est sacrée.
Aude Merlin, vous disiez tout à l'heure, et vous aviez raison, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que quand même vous voyez des liens au fond avec cette situation, entre cette situation et puis les circassiens du Caucase, Aude Merlin?
Pardon, mais vous disiez ?
Non, je parlais à Aude Merlin qui est avec nous en duplex depuis Bruxelles, normalement. Aude Merlin.
Alors, c'était réjouissant d'entendre Antoine, Chao et Mermet tout à l'heure. On a reconnu tout de suite les voix.
Vous avez raison, j'ai pas dit, il y avait aussi Daniel Mermet, vous avez raison.
Voilà.
Ah, vous avez l'oreille fine, Aude Merlin.
Alors, pour les circassiens, alors sur la question en fait de l'impact, disons, économique ou de l'environnement de vie sur les communautés locales, là, ça ne concernera pas uniquement les Tcherkesses ou les Circassiens, parce que ça touche aussi, ça c'est vraiment la question des investissements, précisément certaines stations de ski qui devaient être construites au Nord-Caucase dans d'autres républiques, donc en Kabardino-Balkarie notamment. Ces projets ont effrayé très fort les artisans locaux, les éleveurs, parce que c'est sûr que cela a un impact en termes de confiscation de terres, de destruction d'une partie de l'écosystème, des pâturages, etc. Et là, je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles, dans le cas de la Kabardino-Balkarie, le projet Elbrus est pour l'instant en stand-by, c'est qu'il y a une préoccupation par rapport à l'impact et aux effets nocifs que cela pourrait avoir. Et c'est sûr que là, on voit des conflits qui sont bien sûr à armes très inégales entre des familles d'éleveurs, des gens qui vivent vraiment de leur artisanat, de la laine, et les gros investissements qui sont prévus ou dans certains cas lancés. Donc on peut effectivement voir certaines comparaisons, bien évidemment.
Oui, parce que
ça
ne concerne
pas
cadre...
que les Tcherkesses, puisque les Balkars sont des turcophones, ceux qui sont plus en montagne ou les Karachay, et qui sont plus touchés directement dans leur vie quotidienne, dans leur écosystème, par la question des constructions de stations touristiques, puisqu'ils sont plus hauts en montagne.
Mais dans le cas de Sotchi en particulier, j'ai lu que notamment la construction de la route principale qui mène de l'engros de la montagne jusqu'à Sotchi, hein, jusqu'à la cité balnéaire, pardon, ça avait été une catastrophe écologique et qu'il y avait eu quand même des mobilisations pour dénoncer le massacre quand même.
Ah oui, alors sur le plan environnemental pur, et là sans parler des Tcherkesses en particulier, mais comme vous me posiez la question...
Absolument. Non, mais je fais le lien habilement, Aude Merlin, avec la question environnementale qu'on va aborder maintenant.
Voilà, et donc, et là elle dépasse la question entre guillemets ethnique, bien évidemment, d'autant que des habitants de Sotchi se sont mobilisés. Il y a des ONG qui sont très actives et qui travaillent très sérieusement sur la question des impacts écologiques des Jeux, et qui travaillent depuis longtemps d'ailleurs sur cette question. Enfin, dès que Sotchi a été choisi, ça a beaucoup inquiété certains militants écologistes et certains chercheurs.
Bon, puisque vous m'avez cassé complètement ma transition, Aude Merlin, je vous remercie.
Je plaisante.
En tout cas, je remercie, un grand merci à Anna Guevara qui était avec nous. Et puis, on va accueillir un nouvel invité qui est Hugues François. On va s'intéresser justement à cette question du développement durable dans le tourisme des montagnes. Hugues François, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur en économie régionale et aménagement du territoire à l'IRSTEA. Alors attendez que je reprenne, l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, hein ?
Anciennement connu sous le nom de CEMAGREF.
Voilà, c'est ça. Vous êtes donc un spécialiste des aménagements des territoires, en particulier dans les montagnes. Pour les stations de ski, le respect de l'environnement, c'est une nouvelle contrainte qu'il s'agit d'inclure dans les modèles de développement des stations, dans la perspective, bien sûr, du changement climatique, même si pour le moment c'est difficile d'avoir des données fiables, sûres, sur les effets du changement climatique dans les milieux montagnards. Mais quand même, depuis l'adoption de la conférence de Rio, Yves-François, le développement durable est censé s'imposer dans tous les secteurs de l'économie et le tourisme ne fait pas exception. En quoi est-ce que ce développement durable bouleverse ou pas d'ailleurs le modèle de développement des stations de ski, Yves-François ?
Donc, à l'origine, l'environnement, c'est plutôt un atout pour les stations de sport d'hiver puisque c'est la première ressource qu'elles vont exploiter pour leur activité. La question se pose des modalités de cette exploitation et notamment sur le fait que, effectivement, par rapport aux impératifs économiques de fonctionnement d'une station de sport d'hiver, on a connu déjà des hivers sans neige, notamment à la fin des années 80, début des années 90, qui ont incité les professionnels à essayer de se prémunir de cet hiver sans neige, et où finalement on est plutôt passé dans une phase d'atteinte assez marquée à l'environnement, qui continue aujourd'hui avec notamment les équipements de production de neige de culture, qui accroissent aujourd'hui les pressions sur les ressources, notamment la ressource en eau, on en a déjà parlé, et un phénomène un petit peu sous-jacent qui est celui de la remontée altitudinale des domaines skiables.
Donc en gros, Yves-François, à vous entendre, non seulement le développement durable n'est pas rentré dans le modèle de développement, mais pire, les stations sont de moins en moins durables. Et d'ailleurs, quand on regarde Sochi, par exemple, je ne sais plus combien il y a de canons à neige qui sont prévus pour organiser les Jeux Olympiques de 2014, mais c'est absolument colossal, c'est des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau qui vont être, en tout cas qui ont été prévus d'être lancés sur ces pistes de Sochi, parce que sur les pistes, oui, de Sochi 2014, parce que on n'est pas sûr en plus que la neige sera au rendez-vous. Donc ça, c'est évidemment très mauvais pour l'environnement.
Mais c'est bien ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit pour avoir de la neige pendant les périodes de vacances scolaires ou que ce soit de l'avoir de la neige pendant un événement, on va effectivement avoir des pressions ponctuelles très très fortes sur des ressources pour répondre à cet impératif économique et au fonctionnement de l'outil.
Mais on n'a pas quand même des bons exemples, des bons élèves, vu que François, rien de réjouissant, il n'y a pas des stations en France ou à l'étranger qui font des efforts quand même pour réduire l'impact du tourisme des neiges sur l'écosystème montagnard.
Alors, j'ai peut-être une vision un petit peu négative des choses, mais il me semble qu'aujourd'hui, le développement durable, le verdissement des stations de sport d'hiver, ça prend finalement plus les atours d'une forme de marketing, une manière de vendre les sports d'hiver, on fait du greenwashing, plutôt qu'un réel impact. On peut prendre plusieurs exemples à cela, à commencer par l'exploitation même des domaines skiables, puisque on va encadrer l'exploitation de domaines skiables, notamment par l'intermédiaire de la norme ISO 14001, mais fondamentalement, le travail reste le même. On va être obligé de profiler des pistes, de les profiler pour accueillir un grand public, donc on va transformer des milieux montagnards pour permettre cette pratique. Et finalement, les correctifs qui vont être apportés à cette forme d'exploitation de la montagne apparaissent assez marginales.
Aude Merlin, réaction depuis Bruxelles. Alors, une fois encore, vous n'êtes pas une spécialiste de l'environnement, mais est-ce que vous avez une idée, d'après ce que vous avez lu, de l'impact environnemental global de ces canons à neige qui devraient déverser ces milliers et milliers de mètres cubes d'eau sur Sochi ?
Ce qu'on n'a pas du tout évoqué et qui est quand même important à rappeler, c'est le caractère un petit peu cocasse, voire surréaliste, du choix de Sochi pour des Jeux d'hiver, puisque c'est précisément la seule zone en Russie qui est quand même un pays dont l'image est celle d'un pays très enneigé, par définition. Et Sochi se trouve dans la zone de microclimat subtropical que connaît la Russie.
D'un point de vue géographique, c'est le pire choix, vous voulez dire ?
Bah, en tout cas, c'est un choix qui a surpris parce que c'est une espèce de colonne de terre, un couloir entre la mer et la montagne qui n'est pas extensible donc à l'infini en termes de capacité d'accueil. Et donc déjà pour la question de l'eau et également de l'impact des constructions, les risques d'éboulement de terrain, etc. C'était déjà un petit peu surprenant comme choix. Et en plus, donc, depuis un an déjà, la Russie stocke de la neige aux abords des sites olympiques. Alors là, M. Poutine a rassuré la terre entière, si on peut dire, en disant qu'il y aurait assez de neige. Bon, ce qui est possible, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais en tout cas, il est sûr que de la neige a été stockée par milliers de mètres cubes pour pallier, le cas échéant, le manque d'enneigement naturel au moment de l'ouverture des Jeux.
Ouf, les skieurs sont rassurés.
Ты вид тристый.
Voilà, et on appelle les cieux, nous aussi, hein, avec cette dernière chanson pour clore notre sujet du jour. On pourrait traduire le titre de ce morceau par « Russie, la neige t'a recouverte ». Merci beaucoup à Hugues-François qui était avec nous par téléphone et un grand merci à vous, Aude Merlin, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir accompagnés dans cette matinée. Je rappelle co-auteur de Ordre et désordre au Caucase. On retrouvera évidemment toutes les références sur le site internet de France Culture. Merci à toute l'équipe de Culture Monde.